VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Tudiache avec vous. Il est 18h30 en temps universel. Au sommaire ce soir, drame de la migration en mer Rouge au large du Yémen. Car une quarantaine de réfugiés somaliens ont péri.
Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée.
La justice sud-africaine inflige un nouveau revers à Jacob Zuma. Elle annule sa nomination d'un chef de la police. En République démocratique du Congo, ses employés de la GECAMINE ont cotisé pendant plus de 30 ans, mais ne peuvent pas toucher leur pension de retraite.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la GECAMINE de ses anciens agents ?
Politique américaine, Washington n'exclut pas une action militaire contre Pyongyang pour anéantir sa menace nucléaire. Et Angela Merkel rencontre Donald Trump à la Maison Blanche. Tout à l'heure, les pages sport et économie, mais tout de suite, les nouvelles. L'itinéraire migratoire africain frappé par une nouvelle tragédie. Plus de 30 réfugiés somaliens, dont des femmes et des enfants, ont été tués hier soir par des tirs en mer Rouge au large du Yémen. Le bilan fait aussi état de 35 blessés. Le Yémen est ravagé par une guerre qui n'empêche pas l'afflux de migrants qui fuient la misère et les violences de la Corne de l'Afrique. Jacques Aristide.
Les corps des victimes somaliennes ont été transportés dans les hôpitaux de la ville portuaire de Hodeïda, théâtre en ce moment de violents combats entre les rebelles chiites houthis et les forces favorables au gouvernement yéménite. Le drame est survenu après que l'embarcation des réfugiés a été visée par une attaque armée. Pour l'heure toutefois, le lieu et les circonstances exactes de l'attaque demeurent inconnues. Les belligérants au Yémen se renvoyant la responsabilité. Les rebelles qui ont pris possession du bateau à son entrée aujourd'hui dans le port de Hodeïda l'ont immédiatement imputé à l'aviation de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Mais d'après son responsable portuaire, les morts et les blessés ont été atteints par des tirs d'armes légères, ce qui semble exclure une attaque aérienne. Et d'ajouter que des dizaines d'autres Somaliens qui ont survécu à l'attaque, ainsi que trois trafiquants yéménites arrivés à bord de l'embarcation, ont été conduits vers la prison centrale de la ville. À Genève, un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations dit croire que l'embarcation faisait route vers le Soudan. Au moment de l'attaque, le bureau à Sanaa, du Haut Commissariat pour les réfugiés, se dit profondément affligé par le drame. En dépit de la guerre et de la crise humanitaire qu'il traverse, le Yémen continue d'attirer des réfugiés de la Corne de l'Afrique. Plusieurs camps de réfugiés somaliens existent dans le sud du pays, mais aucun dans la région de Hodeïda, située plus au nord.
Au Mali, assassinat d'un chef du groupe armé pro-gouvernemental Gatsia à Ménaka, dans le nord-est du pays. Deux suspects ont été arrêtés. Almadi Aglengash a été assassiné à son domicile par des hommes armés qui ont pris la fuite dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce que rapporte Mohamed Ag Ouleg, un combattant de cette organisation cité par l'AFP. En Ouganda, le porte-parole de la police, Andrew Kawesi, a été abattu ce matin à Kampala, à bord de son véhicule. Il était accompagné de deux autres policiers qui ont eux aussi succombé. L'attaque a été menée par des hommes lourdement armés, dont le mobile reste inconnu, selon l'inspecteur général Kale Kayirwa. Au Soudan du Sud, deux personnes sont mortes dans une attaque armée contre un convoi humanitaire. Trois autres ont été blessées. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a dénoncé l'insécurité chronique et des attaques dont sont victimes les humanitaires qui tentent de venir en aide à la population de ce pays frappé par une famine. Au Burundi, des pluies torrentielles mêlées à des vents violents ont fait au moins 6 morts dans 3 localités du pays. Ces pluies ont provoqué des glissements de terrain et de débordements d'un caniveau. Plusieurs provinces du pays ont été touchées. Pour le moment, l'on compte également 162 maisons détruites. Mais le bilan des dégâts serait encore plus lourd. Le vice-président Gaston Sindimo a parlé d'une véritable catastrophe. Au Nigeria, 3 personnes sont mortes hier à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, dans un incendie déclaré dans un camp abritant des déplacés. Ces derniers ont fui les violences de Boko Haram. Ce site a accueilli plus de 6200 personnes sinistrées. Nouveau revers pour le président sud-africain Jacob Zuma. La justice a annulé la nomination du patron de l'unité d'élite de la police du pays, en charge des crimes de sang et de corruption les plus graves. Abdourahmane Dia.
Le général Bernard Lemesa avait été nommé en 2015 par le gouvernement à la tête de la direction des enquêtes sur les crimes prioritaires, mais un tribunal l'avait précédemment jugé malhonnête et manquant d'intégrité il y a 2 ans. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir menti sous serment. Malgré ce jugement défavorable, le ministre de la Police l'avait quand même nommé à la tête des Hawks. Donc deux associations ont saisi la Haute Cour de Pretoria et ont obtenu gain de cause. Selon la Haute Cour, le ministre n'a pas évalué correctement le jugement rendu par le précédent tribunal, ni apprécié les doutes sérieux qui pesaient sur son aptitude à occuper ses fonctions. Depuis quelques années, la police sud-africaine est secouée par une série d'affaires qui ont mis en cause plusieurs de ses chefs dans un pays affecté par une forte criminalité. En 2015, sa chef Ria Fiega avait été suspendue après le massacre de Marikana 3 ans plus tôt, au cours duquel 34 mineurs en grève avaient été abattus par la police.
Le roi du Maroc a nommé aujourd'hui l'islamiste Saad Eddine El Othmani nouveau Premier ministre pour tenter de former un gouvernement après 5 mois de blocage, c'est ce qu'a annoncé le cabinet royal. Psychiatre de formation et figure du parti Justice et Développement, un parti islamiste dont il a été le secrétaire général de 2004 à 2008, Monsieur Othmani remplace Abdelilah Ben Kiran, évincé mercredi par Mohamed VI, pour n'être pas parvenu à former une majorité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et l'actualité internationale, c'est la rencontre aujourd'hui entre le président américain Donald Trump et Angela Merkel. Une rencontre après laquelle le président américain a affirmé avoir assuré à nouveau la chancelière allemande de son fort soutien à l'OTAN. Les deux leaders sont actuellement en conférence de presse commune à Washington. Nathalie Barge.
Donald Trump a reçu Angela Merkel avec la volonté de mettre en avant la solidité des liens entre les deux pays alliés après une série d'échanges tendus. Au cours des semaines écoulées, il s'en était pris avec virulence à l'Europe, louant le Brexit et prédisant que d'autres pays quitteraient l'Union. Mais il avait aussi attaqué frontalement l'Allemagne, dénonçant son rôle par trop dominant et qualifiant sa politique d'accueil des réfugiés de catastrophique. Pour Angela Merkel, qui vise un quatrième mandat, cette visite vise à confirmer la vigueur des liens transatlantiques, économiques comme militaires, tout en gardant une certaine distance avec l'équipe de Donald Trump. Pour faire écho à la visite de la chancelière aux USA, la ministre allemande de l'économie a laissé planer aujourd'hui même la menace d'une plainte de l'Allemagne à l'OMC au cas où Washington concrétiserait son projet de taxe d'ajustement aux frontières. De son côté, la Maison-Blanche avait clairement l'intention d'aborder la question de l'excédent commercial allemand.
Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, effectue une tournée en Asie, tournée qui constitue sa première expérience diplomatique de gestion de crise. Depuis la Corée du Sud, il a averti qu'une action militaire des États-Unis contre Pyongyang est possible en cas d'escalade. Saloua Jafari.
La tournée de Tillerson intervient quelques jours après des tirs de missiles balistiques présentés par Pyongyang comme un exercice visant les bases américaines au Japon. Le secrétaire d'État n'a pas manqué de dévoiler la nouvelle approche de Washington.
Soyons très clairs, la politique de patience stratégique est terminée. Nous explorons une nouvelle gamme de mesures diplomatiques, sécuritaires et économiques.
Environ 28 000 soldats américains sont déployés en Corée du Sud, mais la capitale Séoul est à portée de l'artillerie nord-coréenne. La Russie a appelé vendredi les États-Unis et la Corée du Nord à sortir du cercle vicieux de l'escalade militaire. Le Nord a essuyé plusieurs volées de sanctions de l'ONU qui ne l'ont pas incité à changer de politique.
Rima Khalaf, secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, la CESAO, a présenté aujourd'hui sa démission après que le secrétaire général de l'ONU lui a demandé de retirer un rapport accusant Israël d'imposer aux Palestiniens des conditions pouvant s'apparenter au régime d'apartheid. Composé de 18 pays arabes, dont l'État de Palestine, la CESAO œuvre à renforcer la coopération et à promouvoir le développement. Le pape François a recommandé aux prêtres de ne pas hésiter à recourir à des exorcistes locaux lorsqu'ils sont témoins de grands désordres spirituels dans le confessionnal, rappelant toutefois que ces désordres pouvaient être pour une large part psychiques et devaient être pris en compte à travers une saine collaboration avec les sciences humaines. L'exorcisme avec lequel Jésus avait recours, selon la tradition des évangiles dans la Bible, revient à chasser les démons, force du mal qui possède une personne. La pratique n'est pas admise ou appréciée par tous dans l'Église. Le Japon anticipe déjà une nouvelle attaque nord-coréenne. Une centaine de personnes ont participé aujourd'hui au premier exercice d'évaluation organisé en cas d'attaque de missile par la Corée du Nord. Cet entraînement mené à Oga, une ville côtière du nord du Japon, intervient moins de 2 semaines après le tir par Pyongyang de plusieurs engins en direction de l'archipel Nippon. 3 sont tombés au large de cette agglomération, près de 29 000 habitants. Voilà pour les nouvelles du jour. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est la Minute Éco maintenant, présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Au Maroc, la 5e édition du FIAD, le Forum international Afrique Développement, a été lancée. Outil de renforcement de la coopération Sud-Sud, ce forum est placé cette année sous le signe de la croissance inclusive. Inauguré hier par Roch Marc-Christian Caboret, le président du Burkina Faso, acteurs privés et publics de plus de 20 pays du continent échangent idées et opportunités. 3 entreprises ayant le plus contribué au développement intra-africain vont être récompensées, ainsi que 3 jeunes entrepreneurs. Lumière, puissance, action, électrifier l'Afrique. C'est le dernier rapport publié par l'Africa Progress Panel, le think tank dirigé par Kofi Annan. Au sommaire, les kits solaires, depuis les simples lampes jusqu'au système domestique complet capable d'alimenter des équipements électroménagers et les mini-réseaux électriques. Des solutions qui n'ont pas vocation à remplacer, mais à compléter les grands réseaux nationaux afin de combler le déficit énergétique.
Place au sport maintenant avec vous, Dili Dico, bonsoir.
Bonsoir Anastasie.
Alors on commence avec la Ligue des Champions, Bayern Real et Juve Barça en quart de finale.
Tout à fait Anna, 2 finales avant l'heure. Les affiches Bayern Real et Juve Barça animeront les quarts de finale de la Ligue des Champions aux côtés des oppositions Atlético Madrid-Leicester et Dortmund-Monaco. Jan Rösch, l'ancien buteur de Liverpool, a eu la main lourde vendredi au siège de l'UEFA au moment du tirage au sort des quarts de finale prévus le 11 et 12 à l'aller et le 18 et 19 au retour.
Parlons du match Bayern-Real.
Alors ce sont 2 équipes qui ont une très longue tradition, ça pourrait être une finale selon Emilio Butragueno, le représentant du Real. Il a ajouté qu'il aurait aimé affronter cette équipe un peu plus tard car il s'agit d'une rencontre à risque.
En parlant de finale avant l'heure, il y a aussi Juve, vous dites Juve Barça.
Alors, cette affiche était celle de la finale de 2015, remportée par l'équipe de Lionel Messi, 3-1. 2 ans plus tard, le Barça apparaît moins souverain, mais son historique remontada face au Paris Saint-Germain, 6-1 au retour après un revers 4-0 à l'aller, a singulièrement rehaussé sa cote. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi 21 avril et la finale se tiendra le samedi 3 juin à Cardiff.
Le suspense est intact. Et du côté de l'Europa League ?
Alors Manchester United, le favori, a hérité d'un adversaire facile, sur le papier en tout cas, avec Anderlecht, selon le tirage au sort effectué au siège de l'UEFA aujourd'hui. Le club de José Mourinho a l'avantage de recevoir au match retour le 20 avril, après l'aller en Belgique le 13.
Très bien, et on termine, Dili, avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Alors, Golden State a repris sa marche en avant en écrasant Orlando 122-92 jeudi soir. À l'ouest, toujours 4e victoire de suite pour les Thunders et Russell Westbrook continue d'affoler les statistiques. Pour la 34e fois, Anna, le meneur d'Oklahoma City a terminé un match avec un triple-double lors de la victoire de son équipe hier à Toronto, 123-102. Et à l'est, Anna, Cleveland a maîtrisé l'Utah grâce à LeBron James et au revenant Kevin Love. Les 3 autres matchs se sont soldés par la victoire de Brooklyn face à New York, 121-110. Memphis a dominé Atlanta, 103-91. Et Denver a battu les LA Clippers, 122-114.
Eh bien, merci beaucoup, Dili Dico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique et bienvenue dans la partie magazine du Monde aujourd'hui. Notre premier dossier nous mène en République démocratique du Congo où les retraités de la Gécamines dénoncent un flou autour de leurs assurances sociales dont ils réclament le paiement à l'INSS, l'Institut des Sécurités Sociales, après avoir régulièrement cotisé pendant leur carrière professionnelle. Écoutons Narval Mabila pour les détails.
Ils sont plus de 800 retraités de la Générale des Carrières et des Mines qui n'arrivent pas à toucher le paiement de frais de pension à l'Institut National de Sécurité Sociale après avoir cotisé pendant plus de 30 ans. Madame Julie Maloba, retraitée depuis 2013, lève la voile.
Aujourd'hui, je devais aller parce qu'on fait la réunion sur Abimoro. Il fallait aller là-bas, sur le bâtiment INTC. On réclame que l'INSS... Parce que chaque pays, l'INSS retirait ce qu'il devait. Toutes les formalités qu'on avait demandées, la mairie.
Sur chaque fiche de paye, la direction de ressources humaines retenait à la source les frais de cotisation sociale destinés à l'Institut national de sécurité sociale qui ne s'est pas payé pour n'avoir jamais reçu les versements des cotisations de la part de la Gécamines. Monsieur Vincent Depol Kibwe-Kasongo, directeur provincial de l'UNSS, nous donne des explications face à cette situation.
Le problème de la Gécamines n'est pas très différent de celui de beaucoup de sociétés d'État. En ce qui concerne la particularité du cas Gécamines, c'est que vous avez remarqué, cela doit remonter à la fin de l'an 2015. Nous avons signé un protocole d'accord avec la Gécamines, lequel protocole d'accord stipulait clairement qu'au début de l'année qui devait suivre, la Gécamines devait commencer à exécuter le paiement tel que convenu avec l'INSS pour permettre à l'INSS d'assurer la pension de prestataire. Cela n'a pas eu lieu. Les négociations se sont poursuivies et se poursuivent. Dans l'entretemps, nous ne cessons de recevoir les pensionnés de la Gécamines, auxquels pensionnés nous expliquons la situation par rapport au fait que le problème se situe plutôt dans les camps de la Gécamines.
Où sont partis les frais de cotisation sociale retenus à la source par la Gécamines de ses anciens agents? La direction générale de la Gécamines, très embarrassée par cette question, a préféré l'omerta. Mais dans les coulisses, la réponse est simple, c'est un dossier interne. C'est un dossier où il y a à boire et à manger. Certains se sont fait engraisser pour taire le dossier et d'autres font l'objet de menaces de mort. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
L'opérateur de télécommunications Orange, après rachat de Airtel Burkina, a lancé ce jeudi, donc hier, ses activités. Quand on connaît les difficultés qu'ont les consommateurs de téléphonie mobile et d'Internet au Burkina Faso, que va changer cette venue d'Orange en termes de coûts et de qualité de la communication? Zoumana Wonogo.
Exit Airtel Burkina et place à Orange Burkina. Qu'en pensent les citoyens?
Je souhaite une bonne arrivée pour Orange, mais je souhaite beaucoup, surtout, un accord de la consommation, le prix de la consommation. Vraiment, c'est cher. Tu mettras comme Airtel, ça ne va pas marcher.
Pour moi, ce n'est pas le changement de nom qui est important, c'est la consommation. Si c'est moins seulement, on travaille ensemble. L'essentiel, c'est la qualité.
J'ai une puce Airtel qui est devenue Orange maintenant. Mais très souvent, avec la puce-là, j'aime me connecter sur le net. Je trouve souvent que la connexion, c'est pas ça.
Nous avons repris les mêmes critiques sur le coût et la qualité avec le directeur général de Orange Burkina, Ben Cheikh Aïdara. Voici sa réponse.
Payer moins, bien entendu, il y avait ces reproches qui étaient faits à Airtel. Donc aujourd'hui, Orange écoute son marché et va travailler à mettre en place des offres d'abondance, de générosité à travers les bonus Wakati. Et ça, ça va se poursuivre pour que les clients puissent véritablement communiquer à des prix très accessibles et avec une excellente qualité de réseau.
Pour atteindre les objectifs fixés, le directeur général adjoint de Orange annonce des investissements. On écoute Bruno Metling.
Avant la fin de l'année, Orange Burkina Faso va financer un cadre en fibre optique qui va relier, après le câble que nous avons financé vers le Ghana, qui va relier le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire et donc au Mali, et donc une nouvelle liaison qui va sécuriser celle qui existe déjà. Donc pour les citoyens de ce pays, ça veut dire concrètement une amélioration de la qualité de l'Internet. Ça veut dire la capacité à offrir plus de réseaux, d'avoir une meilleure qualité et sans doute d'améliorer encore nos offres sur les prix.
Le rachat des entreprises va souvent avec dégraissement du personnel. Qu'en est-il avec les travailleurs du RTL devenu Orange? Clotilde Bourri, la directrice des ressources humaines, explique.
On a montré déjà depuis qu'on est là qu'on n'a pas fait de plan d'action pour réduire les effectifs. Les effectifs aujourd'hui sont bien dimensionnés. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui sur l'emploi. Tous les salariés qui étaient dans l'entreprise, il y avait 260 salariés le jour où nous avons acquis cette société. Aujourd'hui, il y en a 263. Nous sommes complètement dans la stabilité de l'emploi.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement angolais a reporté son vote final sur un projet de loi controversé réprimant l'IVG. L'avortement est puni de peines allant jusqu'à 10 ans de prison, mais le précédent texte le permettait, notamment lorsque la vie de la mère était en danger ou en cas de viol. Ces exceptions ont été retirées du texte. Plusieurs pays punissent l'IVG de peine de prison, dont le Sénégal. Face à cette situation, l'Association des juristes sénégalaises a mis en place un comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé, coordonné par Ami Sako. Elle a été jointe par Nathalie Barge.
Actuellement, la législation sénégalaise est contre l'avortement. Il n'est autorisé que si la santé de la mère est menacée et que c'est la seule intervention pour permettre à la femme de rester en vie.
Donc, en cas de viol ou d'inceste, l'avortement n'est pas autorisé?
Non, du tout.
Et quelles sont donc les peines encourues pour les femmes et les filles qui se font avorter donc au Sénégal?
C'est de 1 à 5 ans avec des amendes à payer à l'État. Donc si c'est le personnel de santé ou bien si la personne a eu à le faire à plus de reprises, c'est de 5 à 10 ans.
Et est-ce que vous connaissez des cas justement de jeunes femmes notamment qui sont actuellement en prison pour cela?
Oui, parce que nous avons eu à faire une étude au niveau des prisons des femmes du Sénégal. Et il se trouve que 3% de la population carcérale féminine est dans les prisons pour cause d'avortement clandestin.
Quelle est la tranche d'âge de ces femmes?
C'est entre 40 et 13 ans, parce qu'il y a eu, lors de notre dernière visite, il y a eu deux mineurs qui étaient en prison pour cause d'avortement et pour cause d'infanticide.
Alors parlez-nous justement de votre demande d'autoriser à travers la loi l'avortement médicalisé.
Donc notre demande c'est l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée dans le sens du protocole de Maputo que le Sénégal a ratifié en 2004 et qui est entré en vigueur en 2005.
Vous vous heurtez cependant à l'opposition, à la résistance des oulémas et des religieux catholiques. Qu'y a-t-il à dire à ce sujet-là?
Je ne pourrais pas affirmer ce que vous venez de dire parce qu'au niveau du comité de plaidoyer, on travaille avec le réseau Islam et Population. On travaille avec d'autres réseaux religieux, surtout la religion islamique. Donc, c'est des religieux qui sont avec nous, qui sont d'accord pour le plaidoyer parce qu'ils nous ont dit que dans les conditions que nous voulons avoir l'avortement, l'islam autorise l'avortement. Par contre, pour la religion catholique, ils nous ont dit que leur religion est catégoriquement contre. Là aussi, ce n'est pas la quasi-totalité des religieux qui sont avec nous. Mais en tout cas, il y a des religieux qui nous soutiennent, qui sont avec nous. Là aussi, on est conscient qu'on ne peut pas avoir une loi où tout le monde sera d'accord à l'unanimité, surtout concernant une question sur l'avortement médicalisé. Mais en tout cas, on travaille avec des religieux qui sont d'accord sur le projet de loi.
Ami Sako, coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Afrique reste confrontée au chômage, le rythme de sa croissance démographique excédant celui de la création d'emplois. L'entrepreneur nigérian Tony Elumelu estime qu'il appartient au secteur privé d'impulser la croissance économique pour résorber le chômage à travers une philosophie qu'il nomme Africapitalisme. Les précisions tout de suite de Lionel Gaïma.
50% des diplômés sortants chaque année des universités africaines se retrouvent au chômage, constate Kevin Balogun, président de Coca-Cola pour l'Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, le taux de chômage des jeunes est presque de 12% en Afrique subsaharienne. Les dirigeants africains se sont engagés à réduire le taux de pauvreté sur le continent dessous de 20% d'ici 2030. Pour l'entrepreneur Tony Elumelu, les entrepreneurs peuvent contribuer à ce projet à travers des partenariats suivant son concept d'Africapitalisme, ainsi qu'il l'a récemment expliqué aux étudiants de l'Université du Ghana. Le partenariat fonctionne mal en Afrique et nous devons trouver une solution parce que l'effort commun est mieux que l'effort solitaire. Je pense que la confiance est très importante. Ainsi, l'agencement des intérêts est la solution clé pour remédier aux échecs de partenariat en Afrique. C'est ici qu'intervient l'Africapitalisme, c'est-à-dire le fait que pour les Africains d'approcher le développement avec une perspective du secteur privé, a souligné Tony Elumelu. Personne d'autre ne développera l'Afrique à la place des Africains, a-t-il dit, ajoutant qu'il faut éveiller la conscience des dirigeants africains à cette réalité. En attendant, les jeunes Africains ne sont pas rassurés par les possibilités d'emploi. John Amoakusi, en programme de master à l'Université du Ghana, dit qu'il retournera à l'université s'il n'arrive pas à se faire recruter par une entreprise.
One of the options is trying to look for PhD.
L'autre option est de m'inscrire à un programme de PhD au Ghana ou à l'étranger. Oui, je veux acquérir de l'expérience. Même souci chez Paris Aloté en première année à l'Université du Ghana.
Je suis très inquiète parce que le chômage n'est pas une bonne chose. Je pense donc trouver une formation en leadership ou trouver un stage ou m'inscrire en master. Faire quelque chose qui va me donner la chance d'accéder au travail.
Le problème de chômage s'est empiré au Ghana suite à 4 années de perturbations de l'approvisionnement en électricité qui ont provoqué la fermeture de beaucoup de commerces et d'entreprises et la perte de milliers d'emplois.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la voix de Papa Wemba qui sera bientôt rejoint par celle de Diamond Platnumz pour vous dire au revoir. Le morceau s'appelle « Chacun pour soi ». C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Remercions Lionel Gaïma à la mise en onde et Souleyman Tarawale à la console. Je suis Anastasie Tudiesh. Restez sur VO Afrique pour un accès à l'actualité en continu. Rendez-vous sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Pona ila na minimo la tanyona na kujapata kumbonya ila tuchonde ma ni kumbe usini seme vibaya tena na kumbea kongezewa kumula mwaya le fajiri uoni kitenda wiri wa na fikiri pindi tukiwa wawiri tena na kiri inanitesa mwili bora tunia nibaki mwenye
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.